Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Ma fille sous influence, saison 2, de l'autre côté du miroir.
Il n'y aura pas de saison 2, nous a annoncé Nathalie, sans nous laisser grand espoir. Nathalie, c'était cette mère courage qui voulait comprendre comment sa fille Emma, de 15 ans et demi, avait été endoctrinée par les réseaux de l'État islamique. Elle nous a dit, tout simplement, Emma va bien, tout va pour le mieux, son copain est formidable, on l'adore, et c'était fini. Ainsi va la vie des documentaires et des personnages qui les habitent, leur existence leur appartient, figurez-vous. Et c'est tant mieux. Par contre, la saison 2 aura bien lieu, mais de l'autre côté du miroir, du point de vue de 5 jeunes filles sous influence, elles aussi, qui entre 14 et 20 ans, ont essayé, tenté de rejoindre l'État islamique, ou du moins adhérer à son idéologie. Emma aurait pu être l'une d'elles, elle leur ressemble, pas à toutes, pas entièrement, mais par certains aspects, comme un air de famille. Hier c'était Amel, et aujourd'hui la deuxième jeune fille que nous avons rencontrée, c'est Hafsa. Enfin, c'est comme ça que nous l'avons appelée. Mourir en martyr, ça fait rêver tout le monde. C'est ainsi que nous avons intitulé son histoire. C'est elle qui a contacté Edith Bouvier, la reporter, directement, il y a plus d'un an, sur son compte Twitter. Elle était fâchée car elle n'aimait pas du tout le prénom d'emprunt que la journaliste lui avait donné dans un article. Samantha, elle trouvait que ça faisait vieille. Hafsa, ça lui va mieux et elle préfère. Maintenant, elle travaille auprès des personnes âgées et elle va mieux, dit-elle. Elles ne sont pas très nombreuses, comme elle, comme Hafsa, à avoir conçu ce qu'elle appelle un projet sur le sol français. Il y a celles qu'on appelle les filles des bonbonnes, qui ont voulu faire sauter la cathédrale de Notre-Dame en septembre 2016. Il y a une jeune fille qui a projeté de s'attaquer à Disneyland Paris et une autre qui voulait camoufler des explosifs dans un ventre de femme enceinte. Tout de suite donc, la très glaçante et très ambitieuse Hafsa, un prénom moderne et une histoire qui se déroule, je vous le rappelle, après les attentats sanglants du Bataclan et des terrasses parisiennes qui ont fait 131 morts, 131 vies arrachées au nom de l'État islamique et 350 blessés. Reportage Edith Bouvier et Céline Martelet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Hafsa, je vais avoir 19 ans et je viens de Chambéry. Je viens d'une famille divorcée depuis l'âge de mes 4 ans. Mon père s'est séparé de ma mère. Depuis qu'il a déménagé de Chambéry, on ne le voit plus et... Bah, ça n'a pas été trop facile dans ma vie. Ma mère n'était vraiment pas là. Entre frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup d'échanges. On ne se parle pas. Chacun fait ce qu'il a à faire dans son coin. Il n'y a vraiment pas d'amour, en fait. Toute mon adolescence, il y avait un manque, en fait. J'ai une famille algérienne, de culture musulmane, mais qui ne sont pas pratiquants. Ils ne font pas la prière, ils ne font pas le ramadan. Voilà, ils ne pratiquent pas la religion, quoi. Donc c'était dur pour moi aussi de leur demander des conseils vis-à-vis de la religion. J'ai appris la religion sur internet. Il y a des actes à accomplir dans l'islam. C'est pas on se dit musulman et qu'à côté on fait rien. S'il y a des actes à faire, il y a les, comme on dit, il y a les 5 piliers de l'islam, il y a la prière, il y a la foi. Bon après il y a le pèlerinage, mais sinon vraiment on a les moyens. Il y a le ramadan, vous voyez, il y a tout un tas. Et à partir du moment où j'ai commencé à vouloir mettre le voile, là, ça a commencé les disputes, un peu, voilà, les engueulades. Et c'est à partir de ce moment-là où, entre parenthèses, je me suis réfugiée dans les mains des personnes qu'il ne fallait pas. J'avais 15 ans. Et à ce moment-là, l'État islamique était beaucoup présent sur leurs réseaux sociaux. Du coup, je suis allée sur Facebook, j'ai créé un faux compte Facebook pro-État islamique. J'ai attiré pas mal de gens. Je leur ai posé des questions, voilà, comment ça se passe en Syrie, comment la religion elle est appliquée là-bas. Et du coup, ils vous donnent toute une autre version, ils vous montrent des versets, ils les interprètent à leur manière. Bah, je me suis dit, bah, c'est ça en fait l'islam en fait. Un seul verset, bah, ça peut tout chambouler.
«
Et tout a basculé quand c'était l'époque où les Français allaient faire le djihad en Syrie. Et moi, pour ma part, je ne connaissais pas ça. Ni dans la religion, le djihad, je ne connaissais pas trop et à quoi ça servait. Et comme on dit que voilà, l'immigration, c'était important, c'était une obligation. Qu'en France, il y a beaucoup d'islamophobie, ils regardent les sœurs avec perversité. Que voilà, c'était vraiment quelque chose d'important et que là-bas en Syrie, il y a des femmes qui vont en Syrie pour aider les orphelins, les Syriens, qui vont les nourrir, qui vont les soigner. Ça m'avait un peu intéressée parce que aussi je voulais travailler dans l'humanitaire, donc ça m'a donné vraiment envie d'y aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai parlé avec des sœurs qui étaient en Syrie, des sœurs qui étaient en France qui voulaient partir. J'ai rencontré un frère qui vient d'un autre pays européen et dont j'avais fait connaissance sur Internet, avec qui j'étais tombée amoureuse. Et avec le temps, on avait le projet de partir en Syrie. Jusqu'au jour où je me suis fait arrêter pour les services de renseignement, j'avais une interdiction de quitter le territoire avec une mesure éducative. Ça a encore plus empiré les choses que le fait que je ne pouvais pas partir, en fait, parce que ça m'avait coincé dans mes projets et du coup ça m'avait énervée. Et à ce moment-là, c'était l'époque des attentats. Ils disaient, voilà, si vous ne voulez pas immigrer, faites le djihad en France, c'est-à-dire de commettre un attentat ou de mettre de l'eau de Javel dans les plats des Français, de les écraser. Vengez-vous. Et vengez les frères qui sont en Syrie comme eux, ils le font. C'était quelque chose qui m'a vraiment attirée. C'est, je me suis dit, Hafsa, il faut que tu te réveilles, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te venges. Je ne peux pas être en France, dire je défends telle cause sans agir. C'est comme ça que ça m'a un peu mis la haine, que je me suis dit c'est vrai, il n'y a personne en France qui aide les Syriens, qui font quoi que ce soit pour les aider. C'est le moment ou jamais d'agir. Quelques temps plus tard, il y avait une jeune fille du Maroc qui s'appelle Soumia, qui me propose justement un projet soit en France, soit au Maroc. Je lui explique qu'au Maroc, c'est pas possible parce que je ne peux pas quitter le territoire et que ça va être long. Et du coup, elle m'a demandé de chercher d'autres personnes pour monter un projet et d'attaquer. Donc, avec mon compte Facebook, j'avais des sœurs virtuelles que je ne connaissais pas, mais que j'avais en amie, qui étaient pro-islamiques. Je regardais un peu les profils des filles, justement, et je regardais si leur profil était vraiment déterminé, qui posent des vidéos de propagande justement d'État islamique, qui montrent vraiment qu'elles sont volontaires pour passer à l'action. Donc, j'ai recruté une fille qui vient de Paris, une à côté de Lille, et une pas loin de chez moi. Je les ai rassemblées sur un groupe, au début sur Facebook, et après on est parti sur Telegram, on a échangé. Et à ce moment-là, on a commencé à chercher sur Internet des lieux, des concerts, parce qu'on a voulu faire comme le Bataclan. On s'est dit, pourquoi pas tuer plus de personnes. Donc, pour ma part, j'ai regardé des salles de concerts les plus grandes de France. Du coup, j'en ai trouvé une à Paris, qui est Casino de Paris, qui est à peu près le même modèle que le Bataclan, qui a au moins 2500 personnes. Et à côté, j'avais vu trouver un bar justement qui était ouvert la nuit, justement après les concerts, et qui attirait beaucoup de monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas tuer plus de personnes. Donc avec le temps, le projet s'est monté. Le mode opératoire, c'était moi et Emma. On voulait rentrer par derrière et tirer sur la foule, voilà, recharger, retirer, faire un maximum de morts. Et à ce moment-là, on s'est dit, voilà, forcément, il y aura l'intervention du raid, de la police qui vont arriver. Au début, il y aura un échange, je suppose, il y aura une négociation de se rendre. Mais bon, pour nous, c'était impossible de se rendre à l'ennemi à ce moment-là. Donc, on s'est dit, soit on tire dessus ou soit on se fait exploser à la ceinture. On allait faire un peu des deux, tirer un peu sur les forces de l'ordre et éviter qu'on meurt sur leurs balles à eux, on voulait se faire sauter, quoi. Je vous ai dit, il y a tout un processus qui donne envie de le faire, enfin, les vidéos, les versets qu'ils mettaient. Mourir en martyr, ça peut faire rêver à tout le monde, enfin, à force, vous avez presque plus d'émotion. Non, pour moi, non, ça ne me faisait pas peur de mourir, sincèrement. Enfin, même pour les autres filles, je pense. C'est pour ça qu'on était prêtes à se mettre une ceinture, sinon on n'aurait pas fait, on aurait juste fait avec des armes et puis basta. Mais là, vu comme c'est notre volonté, bah, on s'est dit, bah, ceinture, pourquoi pas.
Plus fort que le Bataclan, on savait qu'on n'allait pas faire plus gros qu'eux, parce que c'était vraiment un projet qui a été planifié pendant longtemps, des années, qu'ils avaient vraiment le matériel nécessaire, alors que nous, c'était... sur quelques semaines, donc c'est vraiment qu'on n'avait pas faire un dégât comme eux, mais on voulait ressembler en fait, on voulait faire la même stratégie qu'eux. Après voilà, si on s'est dit qu'on pouvait tout donner, on essayera, mais bon, on s'est sûr qu'on pourra jamais faire autant de dégâts comme eux. C'est sûr. C'est sûr.
Il y avait Émilie qui devait prendre 4 ceintures explosives pour les 4 filles qui étaient dans le projet. Et justement, des kalachnikovs, ben voilà. Elle avait un demi-frère qui, lui, aurait des contacts pour les kalachnikovs et ceintures. Parce que voilà, il habitait pas loin de Saint-Denis, que là-bas c'est un quartier qui est pas mal réputé pour ça. Et on pouvait y trouver des armes en fait. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas entraîné à recharger, à tirer. Et puis, au début, on avait pensé à prendre dans une forêt. Mais je pense que toute seule, je ne sais pas comment on aurait fait, mais on avait pensé à ça. Mais bon, c'est du coup, on va faire sur la foulée, enfin, comme ça, direct. J'avais 15 ans à l'époque. Jusqu'au jour, il y avait une autre fille qui s'est incrustée dans le projet. Cette jeune fille-là, apparemment, a été volontaire pour attaquer la France, mais par la suite a fait marche arrière, puisqu'elle avait peur. Plus tard, on s'est donné l'idée de se rendre à la gare de Paris, justement, pour tous se réunir, pour refaire un point, pour rectifier le plan, prendre le temps de discuter, d'échanger sur plein de choses. On s'est dit quoi ? C'était la dernière fois qu'on allait se voir, donc si on avait cette chose à se dire, c'était maintenant ou jamais. Et de se préparer en tenue, parce qu'on voulait le faire en niqab. Et on allait se rejoindre, je me rappelle, à un samedi justement, au moins maximum 18h, parce que la salle de concert commençait à 21h. Et je vois au loin des gens en civil venir vers moi, qui me demandent pièce d'identité, je leur donne. Ils me disent, on va vous mettre en garde à vue, vous êtes arrêtés. Et ils expliquent que voilà, c'était cette jeune fille, Emma, qui apparemment au début elle voulait faire avec nous le projet, mais qu'elle a eu peur et qu'elle a fini faire par marche arrière, qui du coup c'est pour ça qu'elle nous a dénoncé. C'est ça qui a fait en sorte que ça a mis fin à notre projet quoi, ça a mis échec, ça n'a pas abouti. Présenté à un juge d'instruction. Elle m'a pas mis directement en prison, elle m'a fait passer par un centre éducatif fermé où j'ai passé 4 mois, où quelques éducateurs, pas de droit au téléphone, pas de droit de sortir toute seule. En fait, c'est une alternative à la prison. C'est on est dans une structure avec 12 jeunes et plusieurs éducateurs où ils nous accompagnent quotidiennement à faire des activités. Il n'y a pas d'école, c'est une petite salle où il y a une prof, où on enseigne des cours, où on fait des activités, on mange. C'est vraiment pour essayer de passer à autre chose, de faire des choses adolescentes. Au bout de 4 mois, je n'ai pas respecté les règles de ne pas manquer de respect aux éducateurs, de ne pas fuguer, de ne pas rentrer en contact avec des personnes de mon affaire, ne pas avoir de téléphone. J'en avais un peu marre du centre parce que je voulais rentrer chez moi. Et du coup, avec des jeunes filles, on a voulu fuguer. Et l'éducateur a senti qu'on allait fuguer. Lui, il m'a rattrapé par le bras. Il m'a emmené au commissariat. C'est parti un peu cacahuète. C'était un peu tendu déjà quand c'est fait arrêter. Et il y en a une qui a commencé à chercher un peu les embrouilles avec une policière, qui a commencé à lui dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me regardes. Et du coup, nous, on est rentrés dedans. Et du coup, c'est parti vraiment cacahuète. Et à partir du 1er juillet 2016, j'étais incarcérée à Fleurimier-Rogis, à ce moment-là, c'était vraiment ma première fois que j'ai entré en prison et ça m'a rien fait, vraiment. Je me suis dit, ok. Je suis restée à Fleury-Mérogis pendant 5 mois où j'étais avec des jeunes pour délinquance, pour drogue. Et j'étais avec des gens aussi là pour terrorisme. Ça m'a pas permis d'avancer parce qu'on était tous entre nous. Et on faisait chacun part de nos envies, justement de nos projets. On restait vraiment qu'entre personnes qui étaient là pour terrorisme. Du coup, on était, on va dire ça, dans notre bulle. Et jusqu'au jour, j'ai fait une demande auprès de ma juge d'aller dans une prison proche de chez moi pour être proche de ma famille par rapport au parloir, ce qui a été accordé. En novembre 2016, je suis partie dans une prison proche de chez moi, vers Chambéry. Et là, ça a tout changé parce qu'il y avait vraiment un travail éducatif, parce que c'était un établissement pénitentiaire pour mineurs. L'éducateur, c'était vraiment présent tous les jours, en fait. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur soi. Au début, ça a été dur. Hein. Voilà, c'est pas au bout de deux jours, un mois, j'ai changé. À force de travailler sur mes réflexions, il y avait des hommes culturels, il y avait un imam, justement, qui m'a beaucoup aidée. Qui m'a parlé de religion vraiment, qui m'a fait voir que c'était vraiment l'islam, que c'est pas l'islam, on ne tue pas au nom de l'islam. L'islam, c'est pas la haine, que le djihad, c'est pas vraiment ça. Et que si on appliquait un djihad, le djihad nefs, qui veut dire combattre son âme, ses passions et tout ce qui va avec. Du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et en voyant cet imam et en voyant d'autres monies de différentes cultures, telles que catholiques, on a pas mal échangé, du coup ça m'a fait du bien vraiment quoi. Et avec le temps j'ai plus pensé à autre chose et avec des jeunes qui étaient vraiment pas là pour terrorisme, il n'y avait aucune personne, j'étais la première. Et avec le temps les éducateurs ils ont vu qu'il y avait une évolution, que j'étais plus la même, que j'étais moins renfermée, que je parlais plus avec des gens. À ce moment-là, il y avait un projet qui allait se mettre en place qui s'appelle La Marche, Association Le Seuil, qui se trouve à Paris. Qui consiste à faire marcher les jeunes pendant 3 mois. J'étais pas très d'accord parce que je ne me voyais pas marcher pendant 3 mois avec un éducateur, avec un sac de 15 kilos, c'était hors de question. En plus, avec la chaleur, je me suis dit non, ça m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, j'avais pas trop le choix parce que, en discutant avec la juge, j'étais soit ça ou soit prison jusqu'à mon jugement, quoi. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Marcher quand même 3 mois sans voir mes parents, enfin, même si j'avais l'habitude en prison, pas de téléphone, coupé de tout. Je me suis dit, bah, c'est vraiment une grande épreuve, quoi. On a acheté des équipements pour la marche, sac à dos, etc. Et à ce moment-là, j'étais vraiment fermée parce que de base, je voulais une éducatrice fille par rapport à l'intimité, mais j'avais pas le choix, donc c'était un homme. Je me rappelle, on a commencé à partir pour la marche. On a pris le train, on est parti dans un gîte en Normandie. Pendant 3 semaines, 1 mois, je parlais pas avec l'éducateur. Je marchais, mais je parlais pas. Et la marche, on marchait à peu près de 10 km à 25 km par jour. Des fois, c'était un peu serré parce qu'on dormait dans des campings avec une tente. Et des fois, avec une météo pas très top parce qu'il pleuvait, il y avait des fortes pluies. Des vents un peu forts, et du coup, c'était ça en fait le but de la marche. C'était justement de se déconnecter de tout, de s'affronter soi-même, de penser. Justement, quand on marche, on fait que ça parce qu'on n'a pas de gros téléphone, on marche, on fait que ça, on regarde le paysage, on admire. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte envers l'éducateur. On a commencé à parler, à faire les présentations, et on a fait des rencontres avec des randonneurs et des jeunes d'un foyer aussi, et qui savent vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir. À échanger dans les conversations. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ça, faut que tu prennes vraiment le plaisir de cette marche, faut que tu prennes goût, faut que tu discutes, faut que tu parles, ça fait du bien, même si c'est dur. Et à force, petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir aux personnes, on a commencé à s'échanger. Et à force, je prenais goût de la marche, je prenais plaisir du paysage, je trouvais ça vraiment trop beau. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est vraiment pas ça la vie que t'as voulu depuis le départ. Voilà, de prendre du plaisir, de sourire, de découvrir autre chose, que la haine de tuer, surtout que j'étais très jeune. Ça m'a permis de réfléchir sur où j'étais, sur moi, qu'est-ce que je voulais vraiment, est-ce que c'était vraiment la vie que je voulais avoir, de tuer des gens, mourir à 15 ans. quelques temps plus tard, je suis rentrée de marche, je suis retournée au foyer de là où j'étais. Ça a commencé plus à changer, les travaux sur moi, il a commencé beaucoup à se faire et ça a vraiment plu à la juge. Et juste 2 mois après que je suis rentrée, 2 mois et demi, 3 mois, il y avait mon jugement qui allait arriver. J'ai reçu une lettre recommandée du procureur comme quoi j'allais être jugée pendant 2 jours. On a parlé de ma personnalité, c'était vraiment la chose qui m'a vraiment touchée parce que voilà, il y avait mes parents et c'est la première fois que je m'exprimais devant eux, que je disais que voilà, j'aurais bien aimé qu'une famille plus présente, plus soutenue, où on se voit plus souvent, où on sort, où on fait des choses. Et c'était la première fois qu'ils entendaient mes paroles. Le juge les a interrogés, mes parents. Ils sont expliqués que voilà, nous sommes divorcés, que 700 km c'est pas rien, c'est trop loin. Et que oui, maintenant, on envisage d'être plus là pour notre fille, de la soutenir, de l'aimer comme il faut, de faire attention et de plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Et du coup, c'était délibéré pendant 1 heure. On revient. Je demande une peine de 5 ans d'emprisonnement. Avec 2 ans de sursis mis à l'épreuve. Je vous laisse une deuxième chance. Vous avez intérêt à respecter vos sursis. Un sursis, c'est des obligations. C'est comme un contrôle judiciaire. On a des obligations à respecter comme obligation de travail, de formation, obligation de soins, de voir un psychologue, interdiction de rentrer en contact avec les personnes qui sont dans l'histoire, interdiction de porter une arme, interdiction de consulter des sites djihadistes. À ce moment-là, ça m'a vraiment soulagée. J'y croyais pas. Je me suis dit, non, sérieux. Vraiment, c'est vraiment un cadeau et c'est vraiment une deuxième chance. Voilà, j'étais en liberté, mais pas que ça. J'avais quand même une peine de prison au-dessus de ma tête. Depuis mars 2019, je suis rentrée chez moi et de revoir ma mère, de recréer les liens avec mes frères et sœurs. Au début, c'était avec ma mère, ça s'est fait, mais avec mes frères et sœurs, c'était pas vraiment top parce que voilà, ils me revoyaient pour la première fois. Entre guillemets, on a fait comme si de rien n'était, on a parlé d'autre chose. Je fais quoi aujourd'hui? On sort, on parle. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Et en repensant, je me suis dit, depuis 2015, je subis cette histoire, je me suis dit, waouh. J'ai dit, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, tellement de choses. C'est incroyable tout ce que j'ai pu faire. Comme parcours, comme chemin pour m'en sortir. Là, je reprends ma vie normale, je vais avoir 19 ans, je sors, je me promène, je vais faire les shopping, voilà, je profite.
Voilà, j'ai un copain, ça fait 1 an qu'on est ensemble, et du coup, on a des projets à faire ensemble, on compte se marier, prendre un appartement ensemble. Voilà, construire une vie, avoir des enfants plus tard, voyager, beaucoup de choses. Vous connaissez mon histoire, je l'ai un peu racontée et il a accepté et je trouve ça bien en fait. Aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que je ne regarde plus la télé, je suis que sur Instagram, Snapchat. Des conseils beauté, des rappels, citations, de la mode, fashion. C'est vraiment que des trucs comme ça, il n'y a pas des trucs sur l'actualité, sur dans le monde. Donc je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe. Des guerres, tout ce qui est élection présidentielle, tout ce qui est... ça m'intéresse plus trop.
Just a waste of time.
C'était Ma fille sous influence, saison 2, épisode 2 avec Afsa, reportage Edith Bouvier et Céline Martelet, une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy d'après une idée originale de Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand. Retrouvez l'intégralité de Ma fille sous influence, la saison 2 et la saison 1 sur toutes les applis de podcast et sur le site de France Culture. Vous pouvez tout télécharger d'un coup et binge écouter. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire. Vous trouverez également sur notre site des tas d'infos et de contextes ainsi que des remerciements circonstanciés.